dimanche à 20h et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est à présent l'heure de retrouver Frédéric Martel. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir, il est 17h59 sur France Culture. Dans un instant, le journal de 18h, suivi par Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique. Et ce soir, nous parlerons de l'Agence française de développement. Je reçois son directeur Rémi Rioux. On évoquera également ce soir dans Soft Power les nominations, les prix Nobel de la paix à Abiy Ahmed, deux autres prix Nobel avec Peter Handke et Olga Tokarczuk. On parlera de Google, Apple et leur revirement sur Hong Kong. Et pourquoi pas, si on a le temps, on parlera aussi de l'homme de Vitruve qui a quelques problèmes pour rejoindre la France, de Léonard de Vinci. Et puis, à quelques jours de la FIAC, on évoquera les questions d'art contemporain. Voilà, tout ça après l'info. France Culture, il va être précisément 18h. Le journal Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous. L'offensive turque, crépitement de communiqués triomphalistes à Ankara, le commandement kurde prétend lui préparer la riposte. Le point sur le terrain avec nos envoyés spéciaux, un terrain que quitteront sous peu 1000 soldats américains, correspondance de New York. Quel impact prêté aux embargos sur les armes décrétées par 4 pays, dont la France? Commentaire du chercheur Jean Marcoux. Plus que quelques heures pour les Tunisiens, appelés aux urnes pour un second tour de la deuxième présidentielle depuis la révolution de Jasmin en 2011, scrutin suivi par Christian Chenou. Enfin, nous rendrons en Équateur, pays sous perfusion du FMI, pays en proie à de vastes émeutes depuis la mise en place de drastiques réformes. Ce sera un reportage d'Éric Sanson. Selon le ministère turc de la Défense, l'armée et ses supplétifs auraient pris le contrôle d'une autoroute qui s'enfonce en terre syrienne. Les effectifs kurdes auraient perdu le contrôle de la ville de Tal Abyad. Les combats se poursuivent aux abords de celle de Ras Al Ain. Aurélien Colli est aux abords du camp d'Ain Issa. Tendez l'oreille, la ligne avec le front est d'une qualité toute relative.
Le camp d'Ain Issa, ouvert en 2016, c'est 13 000 personnes environ qui avaient fui la ville de Raqqa, alors capitale syrienne de Daesh, lors des combats pour sa libération. Sur ces 13 000 personnes, un peu moins de 1000 sont des familles de djihadistes, essentiellement des étrangers, qui vivaient dans une section fermée du camp. Selon les forces kurdes, il y a eu d'abord des bombardements turcs à proximité du camp, puis des déplacés de la section ouverte ont décidé de partir, mais des cellules dormantes de Daesh qui s'étaient introduites dans cette section ouverte ont lancé des attaques pour faciliter l'évasion des captifs de la section fermée. C'est le scénario des forces kurdes qui n'ont cessé de demander aux pays occidentaux de rapatrier leurs ressortissants, qui avaient mis en garde aussi sur la difficulté qu'elles auraient à maintenir la sécurité de ces camps en cas d'offensive turque. L'évacuation du camp d'Ain Issa s'est posée vendredi, 48 heures après le début de l'offensive turque, mais elle n'a pas été mise en œuvre parce que des milliers de civils fuyaient déjà la zone frontalière et parce que les forces kurdes se concentraient sur leur résistance.
Aurélien Colli accompagné de Benjamin Chauvin. Ce soir, la France s'inquiète de la fuite d'un autre camp de réfugiés, de cette fois 800 proches de djihadistes étrangers, membres de l'organisation État islamique. Cette offensive turque dans le nord syrien est d'une telle envergure, dans un périmètre relativement restreint, qu'elle met en danger les troupes qui ne livrent pas bataille, comme les effectifs américains. C'est en tous les cas l'argumentaire du chef du Pentagone, Mark Esper, qui annonce ce soir que jusqu'à 1000 soldats vont quitter la zone. C'est une correspondance de New York de Loïc Loury.
Un retrait délibéré des forces américaines de la partie nord de la Syrie. Cette décision, dit Mark Esper, a été ordonnée par Donald Trump face à ce qu'il qualifie donc de situation intenable. D'un côté, les Turcs, selon lui, sur le point d'étendre leur attaque plus au sud, et de l'autre, des Kurdes qui organiseraient la riposte. Sur Twitter, le président américain ce matin se justifie dans une série de messages assez confus. Les Kurdes et les Turcs, dit-il, se battent depuis des années, d'autres pourraient vouloir se joindre au combat, laissez-les faire. Il affirme toutefois surveiller de près la situation. Mais les États-Unis semblent surtout dépassés par l'ampleur de l'offensive turque, Ankara restant sourde aux menaces et aux pressions, notamment venues de Washington. Vendredi, des soldats américains s'étaient ainsi retrouvés sous le feu de positions turques. Le chaos dans la région aurait aussi permis la fuite de près de 800 proches de djihadistes, sans parler des victimes civiles et militaires ou des déplacements forcés de populations. Il y a une semaine, Donald Trump avait provoqué l'indignation en annonçant un premier retrait, décision qui avait été interprétée comme un feu vert à cette intervention turque contre les Kurdes. Le président américain n'en avait alors pas du tout mesuré les conséquences, même si son administration aujourd'hui préfère accuser Ankara et le président Erdogan.
Hier, Paris a décidé de suspendre ses ventes d'armes à Ankara. Cet après-midi, la chancelière allemande enjoint Recep Tayyip Erdogan de faire cesser immédiatement l'offensive, fin de non-recevoir du président turc. Est-ce qu'en définitive, les Occidentaux peuvent vraiment peser sur ce qui se noue en ce moment à la frontière syro-turque ? Nous vous proposons l'analyse de Jean Marcoux, professeur à Sciences Po Grenoble.
Je crois qu'il ne faut pas trop non plus considérer que cet embargo est important parce que, malgré tout, la Turquie est un pays qui produit beaucoup de ses armes, et donc notamment les armes européennes. Certes, les armes allemandes sont importantes, mais malgré tout, ce n'est pas, je dirais, une menace qui risque de faire une pression considérable. Par ailleurs, ce que je vois surtout, c'est que les Occidentaux sont divisés, parce que même si les États-Unis ont tenté de faire passer une résolution au Conseil de sécurité qui demandait à la Turquie d'arrêter cette opération, vous savez malgré tout que c'est finalement du fait de la décision des États-Unis de retirer ou tout au moins de mettre à l'écart leurs forces dans le Rojava que finalement cette opération a été lancée, a commencé. Donc les Occidentaux, en particulier les États-Unis, ne sont pas très clairs en fait sur ce qu'ils veulent faire. Et d'autre part, il ne faut pas perdre de vue par rapport à ça ce qui est en train de se passer aussi côté russe et côté régime syrien. On sait qu'il y a des négociations actuellement entre les YPG et les Russes et le régime syrien qui viseraient effectivement à obtenir pour les YPG et pour les Kurdes le soutien des Russes et du régime syrien qui là pourrait aussi peser sur la Turquie. C'est un peu les Russes qui à ce moment-là, si cette évolution se confirmait, auraient toutes les cartes en main dans le jeu qui se joue à l'heure actuelle sur la frontière turco-syrienne.
Jean Marcoux avec Nabil Hamel. Jean Marcoux a dirigé en juillet dernier, dans la revue Orient Stratégique chez l'Harmattan, l'ouvrage intitulé « La Turquie et ses nouveaux alliés ». En Tunisie, seule variable digne de ce nom à notre disposition, à 2 heures de la fermeture des bureaux de vote, le taux de participation au second tour de la présidentielle ce dimanche, il était de près de 18% en fin de matinée. En lice, l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui et le juriste Kaïs Saïd. Christian Chesneau s'est rendu dans plusieurs bureaux de vote de Tunis.
Une présidentielle sous le signe de la morosité et du désenchantement car l'économie tunisienne est à la dérive. Pourtant, malgré ce contexte très difficile, les Tunisiens savourent ce moment démocratique où chacun peut faire entendre sa voix, quitte à voter blanc. Dans le quartier de la Goulette, cette pharmacienne renvoie dos à dos les deux candidats.
Je ne me sens proche d'aucun d'eux.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ne me représentent pas. Je sais pas, c'est pas moi. C'est parce que... Moi, je voudrais bien quelqu'un qui ait fait de la politique, qui ait des antécédents, que j'aurais vu à l'action ou au moins que j'aurais entendu parler lors des débats. Voilà, donc là, je n'ai pas vu. Même le débat final ne m'a pas convaincu, au contraire.
Omar, un architecte rentré au pays après la révolution de 2011, a voté en famille dans son quartier de Sidi Bou Saïd. Pour lui, l'urgence, c'est de donner un avenir à la jeunesse.
Il y a la pauvreté, il y a le chômage, il y a les gens qui migrent, que ce soit légalement ou illégalement. Donc pour nous, l'attente, c'est d'avoir un président qui résout le premier problème économique. Le Tunisien ne cherche pas à savoir s'il est laïque ou musulman ou athée. La première question qui va primer, c'est la réussite économique de la Tunisie. Voilà. On attend que la relance soit faite pour qu'au moins ceux qui sont encore en France, les Tunisiens, et qui cherchent à revenir un jour, voient ça d'un mauvais œil, et que la Tunisie arrête de perdre ses enfants et ses élites qui cherchent à chaque fois à migrer à l'étranger pour avoir des jours meilleurs.
Les défis qui attendent le nouveau président ne manquent pas, à commencer par la formation d'un nouveau gouvernement et le redressement économique.
Christian Chesneau et Laurent Macchietti à Tunis. Ouverture du dialogue en Équateur dans des circonstances troubles. Après 11 jours de crise politique, d'émeutes et d'affrontements, reprise du dialogue entre la présidence et la Confédération des nationalités indigènes avec des divisions au sein de la dite confédération qui serait en train de perdre le contrôle des manifestations au profit des représentants de l'ancien président Rafael Correa. C'est un reportage à Quito d'Éric Sanson de RFI.
C'est un barrage comme il y en a des centaines d'autres dans tout le district métropolitain de Quito. Un camion au milieu de la route, des pneus enflammés, des tas de gravats, une centaine de manifestants et derrière des dizaines de voitures particulières et de camions, résignés à passer ici un temps encore indéterminé, mais probablement long. Chez les manifestants, comme Luis Yukilema, le mot d'ordre ne concerne plus seulement l'abrogation des mesures économiques.
À la vue de l'obstination du président de la République, Lénine Moreno, à la vue des atrocités commises par les forces de l'ordre contre nos camarades, nous avons perdu patience, nos droits sont bafoués. Nous exigeons le départ du président Moreno, nous ne voulons pas du dialogue.
Faire chuter le régime, c'est le mot d'ordre des partisans de l'ancien président Rafael Correa qui poussent à des élections anticipées. S'attendant à une réaction du gouvernement, l'ancienne présidente choriste de l'Assemblée nationale, Gabriela Rivadeneira, a d'ailleurs demandé et obtenu l'asile au sein de l'ambassade mexicaine à Quito. Face à cette accusation de faire le jeu de Rafael Correa, qui pendant ses 10 ans de gouvernement a été très dur contre les dirigeants indigènes, ces derniers ont accepté de reprendre le dialogue dans quelques heures à Quito avec le président Moreno.
En France, premier tour de l'élection du président du parti Les Républicains ce week-end. En course, Christian Jacob, le patron des députés LR et les députés Julien Aubert et Guillaume Larrivé. La mission du vainqueur, assurer la survie du parti et lui trouver une place sur l'abscisse politique. À 11h, le taux de participation était de 26%, soit 34 474 votants. Selon la haute autorité, un très bon chiffre selon Jean Léonetti, le président LR par intérim. Quelques mots de la météo de demain, temps instable et orageux sur une grande moitié ouest du pays. Température très douce pour la saison. Cette édition a été préparée avec Caroline Benetto.